Premier épître à Timothée, chapitre 6, à partir du verset 9. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé, et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu, qui appelle toutes choses à l'existence, et devant le Christ Jésus, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux est seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen.
La dernière fois, nous avons vu les versets 5 à 9 de ce chapitre 6, de cette première épître à Timothée. Au verset 6, la piété avec le contentement est un grand gain. Nous avons rappelé le verset dans Philippiens 3, les choses pour moi qui étaient un gain sont à cause du Christ comme une perte. Nous avons dit que ce gain, c'est l'argent, bien sûr, mais aussi l'honneur des hommes, le zèle de l'homme naturel, son savoir, sa moralité, c'est tout ce que Paul avait avant sa conversion. Mais Paul maintenant désirait être dépouillé de tout ce qui n'est pas Christ, qu'il considère comme des ordures. La piété avec le contentement est un grand gain. Le vrai gain, c'est la piété, la relation avec le Seigneur, avec le contentement. C'est-à-dire, c'est l'acceptation dans la lumière devant lui de ce qu'il veut nous donner présentement. La piété est au centre de ces versets. Ce n'est pas le fait d'être riche ou pauvre qui nous rend contents, mais c'est la piété. Au verset 8, nous voyons, ayant la nourriture de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Pour les besoins primaires, nous avons rappelé ce verset de Matthieu 6, verset 31. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Pouvoir manger et avoir de quoi nous couvrir, cela nous rend satisfaits. Nous avons dit que, verset 9, que l'on soit riche ou pauvre, si l'on cherche la richesse, finalement, c'est une idole. C'est une idole qui remplace la foi. Et lorsque cette idole remplace notre foi, alors cette foi n'a plus de saveur. Et on finit par être transpercé de beaucoup de douleurs.
Je crois qu'on avait rappelé aussi que dans ce verset 9, il nous est dit ceux qui veulent devenir riche tombe dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Sans doute se souligner le verbe « ceux qui veulent devenir riches ». Et c'est une volonté qui est invisible, qui est cachée. Et il tombe dans la tentation et dans un piège. Et le mot qui a été traduit par « piège » dans l'original signifie plutôt un filet. Un filet duquel il est difficile de s'échapper. Et il nous est dit que c'est une racine de toutes sortes de maux, que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi. C'est-à-dire que la foi, la confiance en Dieu, ce contentement de ce que nous pouvons avoir reçu, eh bien, la foi n'avait plus de saveur, n'avait plus d'attirance pour ces personnes. Et donc, on voit bien que le grand danger de ce désir insensé, de cette volonté de s'enrichir, eh bien, c'est un piège duquel il est difficile de s'échapper. Et le grand danger pour les chrétiens, c'est que, insensiblement, eh bien, la foi n'a plus de saveur. C'est-à-dire, notre confiance en Dieu, eh bien, elle diminue, elle se perd, et c'est dans les richesses que va notre confiance. Et bien que nous soyons gardés d'être égarés de la foi, qu'elle ait toujours plus cette saveur, et qu'elle ait toujours autant d'attirance pour chacun de nous. C'est qu'il nous est dit qu'ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Le verbe transpercer, nous savons que il nous en est parlé aussi dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 2, et transpercer, que ce soit dans l'évangile de Luc ou ici, signifie des souffrances intérieures très vives. Et dans l'évangile de Luc, c'est en rapport avec Marie et la crucifixion du Seigneur. Mais ici, le mot transversé aussi, c'est quelque chose qui doit nous avertir, car il nous est dit d'abord, ils se sont égarés de la foi, et quand on s'égare de la foi, eh bien, les conséquences, selon ce que nous dit la parole de Dieu, les conséquences, ce sont des souffrances intérieures très vives.
Quelque chose de très imagé dans ces versets qui parlent. Michel a relevé ce vouloir devenir riche. Plus loin, il est parlé de ambitionner, amour de l'argent, ambitionner. Et puis, à l'autre côté, il y a ce piège. Des désirs insensés, la juste mesure des choses est perdue. Oui, l'argent, la richesse, l'amour de l'argent fait perdre les repères sensés. Les repères sensés aussi bien du point de vue de l'homme naturel raisonnable sur la terre que pour ce qui touche aux croyants. Mais alors plus loin, il est parlé de ruine et de perdition. Et après, il est parlé, au milieu du verset 10, ils se sont égarés de la foi. Cette image, dans ce contexte, ça me fait penser à quelqu'un qui est dans un appartement, dans le noir, et qui cherche la porte. mais qui ne trouve pas la porte égarée de la foi. Cet argent, cette richesse a pris tellement les commandes de toutes choses qu'on ne sait plus où est le chemin de la foi. Et alors là, on peut mettre en regard deux choses. J'ai de l'argent, je peux acheter tout ce que je veux. J'ai besoin de personne. Je sors l'argent, je reçois ce que je veux. À l'opposé, il y a la foi. La foi, c'est quoi? Dans ce contexte-là, c'est plutôt, on peut voir le côté de « je suis totalement dépendant de celui qui me conduit, de celui qui seul peut me guider, qui seul peut me porter, me garder ». Voilà, on a un double tableau, on a le tableau décrit de cet amour de l'argent et de cette ambition de la richesse. Et en revers, en négatif, on a ce qu'est le chemin de la foi, la dépendance, la confiance en Dieu et pas en des choses matérielles. Une ambition qui est céleste et qui n'est pas terrestre, et cette foi qui s'appuie, qui cherche en Dieu et pas en lui-même ou en ses efforts ou en son travail ou en toute son astuce, les moyens pour marcher.
Je peux ajouter que c'est une caractéristique de notre société occidentale. C'est-à-dire que l'argent a sur l'âme un pouvoir exorbitant. Et ici, nous voyons que Paul ne fait pas l'éloge de la pauvreté, mais il met en garde contre la convoitise intérieure. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'avec les richesses, cette recherche des richesses, il y a une diminution du contentement et de la piété, c'est-à-dire notre relation avec Dieu et avec le Seigneur, eh bien, c'est une relation qui s'étiole, qui diminue. On peut se souvenir du modèle de notre Seigneur qui était le possesseur de toutes choses, mais qui dans sa vie était matériellement pauvre. Et nous avions, je crois, évoqué ce qu'il est dit dans la deuxième épître à Timothée, à la fin de la vie de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, au verset 13, l'apôtre dit à Timothée, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade chez Carpus et les livres, spécialement les parchemins. » Et nous voyons ce qui importait pour Paul. C'était, comme il nous est indiqué dans 1 Timothée 6, le manteau, la couverture, et aussi les livres de Paul, c'est-à-dire son enseignement, peut-être les livres de l'Ancien Testament et les écrits des apôtres. Et nous voyons en cela que Paul n'en avait jamais recherché, bien sûr, les richesses. Et malgré la solitude et l'abandon qu'il connaissait, eh bien, il avait cette pauvreté matérielle. Le manteau qui est le symbole du pèlerin qui est en route vers le ciel, et les livres qui sont aussi le symbole, ou les livres et les parchemins, symbole de la parole de Dieu. Et on peut souligner l'importance de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu en
trois versets. Dans Psaume 49, versets 16 à 20.
Psaume 49, versets 16 à 20, ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien, sa gloire ne descendra pas après lui. Quoique pendant sa vie, il bénisse son âme, et on te louera, si tu te fais du bien. Il s'en ira jusqu'à la génération de ses pères, ils ne verront jamais la lumière. L'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent.
Ecclésiaste 5, verset 15. Ecclésiaste 5, verset 15.
Ecclésiaste 5, verset 15. Comme il sortit du ventre de sa mère, il s'en retourna nu, s'en allant comme il est venu. Et de son travail, il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main.
Et puis, encore un verset dans Agé, prophète Agé, chapitre 2, au verset 8.
Agé, chapitre 2, et verset 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées.
Voilà. Les richesses ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. Mais Dieu n'a rien contre les riches ni contre les pauvres. C'est la parole. Au marché, selon les enseignements de la parole, que la parole nous donne.
Ça a été dit peut-être, mais on a deux passages dans les évangiles qui nous parlent un peu de ça. En Luc 12, du verset 13 à 21, vous voyez, question de partager l'héritage. Donc ça, c'est un sujet qui est toujours actuel. Il y a des familles chrétiennes comme incrédules qui se déchirent pour des héritages. Et pourquoi ? Parce que quand l'argent est là à portée de main, on piétine vite fait tout ce qui est des principes de la foi et des chrétiens et tout ce qu'on a pu professer. Et je pense que chacun a des malheureux exemples en tête. Et c'est solennel, ça. Ça nous concerne tous. Et donc on a cette parabole que le Seigneur dit pour vraiment nous essayer de faire prendre du recul par rapport à ces choses-là, avec l'histoire de l'homme riche qui amassait des biens, qui voulait faire des plus grands greniers. Et donc la conclusion au verset 21 de Luc 12, c'est: il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. En fait, la vraie question, elle est là. Quelle est notre richesse ? Il y a bien d'autres passages qui nous parlent, voilà, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, etc. Mais vraiment se dire, le moteur dans les richesses, quelque part, est-ce que c'est pour soi-même ou est-ce que je l'amasse pour le ciel, pour Dieu ? Et ça change tout, ça change le rapport aussi par rapport à l'argent. Et on a, alors ce qui n'est pas une parabole, mais un exemple concret en Matthieu 19, du verset 16 au verset 26, où là on a un jeune homme, mais ce n'est pas forcément propre qu'au jeune homme, c'est à chacun. Et le Seigneur lui dit, au verset 21, Matthieu 19, verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Ah, c'est la même chose, un trésor dans le ciel. Tu vas vendre, c'est-à-dire que tu vas être pauvre, et tu vas avoir un trésor dans le ciel. Mais on voit bien que dans d'autres passages, ce n'est pas tant une question de ce n'est pas un compte bancaire dans le ciel qui se transfère de la terre au ciel. C'est vraiment le cœur. Le Seigneur veut dire, mais arrache ton cœur, mets ton cœur ailleurs. Il dit, et viens, c'est extrêmement important, en fin du verset 21, et viens, suis-moi. Et aujourd'hui, le monde qui nous entoure, et Michel en a parlé, et je suis bien en phase, qu'on nous incite à suivre notre compte bancaire, et pas le Seigneur. Et on est contaminés, on est tous contaminés par cet esprit où on dit, vas-y, prends une assurance. Si jamais tu as un problème, prends un livret, si jamais tu auras un petit matelas, et ceci, cela. Alors, il ne faut pas vivre non plus d'une manière déraisonnée, et dans, on l'a dit, bien sûr, dans la pauvreté, comme le font certains, qui font vœu de pauvreté, etc. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais là, le Seigneur, il dit, viens, suis-moi. Et au verset 26, on peut dire, mais pour les hommes, ça, on voit Matthieu 19, verset 26, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. On dit, mais c'est quand même compliqué ce que le Seigneur il nous demande. Là. Il s'étonne, il dit, Il dit au verset 22, bon, il s'en va tout triste, il avait de grands biens. Et au verset 25, voilà, qui donc peut être sauvé? Bien sûr, il y a beaucoup à dire là-dessus. Le Seigneur prend sur son propre terrain, celui des richesses, mais moi, je parle aussi pour les jeunes, pour par exemple ceux qui font des études, ceux qui aussi qui ont à choisir un métier. Il y a ces questions-là qui se posent à un moment donné. C'est pourquoi je fais telle ou telle étude? Est-ce que c'est pour avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que voilà, il y a des questions vraiment à se poser et qui vont avoir une influence et une des conséquences sur toute notre vie derrière, ou sur une bonne partie des aspects de notre vie. C'est extrêmement important de se poser les bonnes questions. Quand on a des choix à faire en tant qu'étudiant, jeune, pour les études, et même des choix après de métier, et après même dans la vie active, quand on va nous proposer des différentes choses dans la vie professionnelle, bien poser les choses devant le Seigneur. Est-ce que ça va être une entrave pour le suivre? Est-ce que ça va être un frein? Est-ce que ça va me tirer vers le bas? Ou pas. Et c'est ce qu'il est question en Timothée, c'est vraiment toutes sortes de mots. Que l'amour de l'argent, l'amour, là, encore une question de cœur. Et ça tire vers le bas. Ça peut et ça a tendance à tirer vers le bas. Je pense qu'on peut aussi citer l'exemple de Judas, hein, pour de l'argent, ce qu'il a fait. Je ne vais pas faire trop de digressions, mais moi, juste alerter sur les choix de la vie qu'on a jusque tard et qui ont des grosses conséquences sur après la disponibilité de cœur pour suivre le Seigneur.
Job chapitre 1, verset 21, et il dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Peut-être une pensée aussi pour faire écho à ce verset qu'on vient de lire. Et puis aussi pour les plus jeunes, on a lu tout à l'heure, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Et il n'est pas écrit c'est une racine de toutes sortes de maux que l'argent. C'est l'amour de l'argent. Dit différemment, on peut être fortuné toute sa vie et aimer l'argent. On peut être riche toute sa vie et aimer l'argent. Et on peut être pauvre toute sa vie et aimer l'argent. Et Michel l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'apologie de la pauvreté. On n'a pas nécessairement à rechercher la pauvreté pour être certain d'être dans le bon chemin. C'est l'amour de l'argent. Et on peut lire un court passage dans 1 Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 7. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et aussi, tu l'as reçu. Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu?
Paul nous concentre, si la parole, si l'Esprit de Dieu concentre cette question sur la question des richesses, de l'amour des richesses. C'est bien parce que c'est quelque chose d'universel. Tous les temps, tous les peuples, toutes les circonstances, c'est quelque chose de commun à l'homme, d'être en danger, de mettre son cœur dans les richesses. Mais l'amour de l'argent, c'est justement ce que Manu vient de relever, c'est le cœur. Et on peut généraliser ou décliner ce qu'on a dans ces versets sur bien d'autres choses. On a évoqué le travail tout à l'heure. On peut être passionné par son travail. Le cœur est pris par le travail, par l'objet du travail. Et s'il est pris par cela, il n'est plus disponible pour autre chose. Je dis le travail, c'est parce que c'est une de ces choses qui occupent beaucoup de notre temps. Ça peut être plein d'autres choses qui, tout simplement, prennent le cœur. Et ce cœur pris n'est plus disponible, n'est plus au Seigneur, n'est plus disponible pour le Seigneur, mais n'est plus au Seigneur, il est à autre chose. Et ce que le Seigneur dit lui-même ailleurs, je ne retrouverai pas la référence à l'instant, mais on la connaît, on peut servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ben, c'est vrai, on peut remplacer Mammon par tout ce qui prend la place du Seigneur.
Sage dans la parole sur cette question de l'argent, des richesses, ou de tout ce qui peut prendre la place du Seigneur, de tout ce qui finalement est une idole. Il y a plusieurs pensées liées à cela. Ici, c'est celui qui aime l'argent qui va être égaré par des désirs insensés, pernicieux, vouloir toujours plus, parce que quand on aime l'argent, ou quand on aime d'ailleurs autre chose, ça va être son travail effectivement, on en veut toujours plus, on n'est jamais rassasié, on n'est jamais satisfait. Et c'est une de ses douleurs, parce qu'on craint toujours plus aussi de perdre ce qu'on a. Un autre mal lié à l'argent, c'est ce que l'Ecclésiaste aussi mentionne, par exemple au chapitre 5 de l'Ecclésiaste, 5 verset 12. « Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. Les richesses sont conservées à leur maître pour leur détriment, ou ces richesses périssent par quelques circonstances malheureuses. » Ce qui montre bien que nous n'avons en réalité aucune maîtrise sur les richesses que l'homme poursuit. Ces choses qu'on poursuit, on n'en a aucune maîtrise. Elles peuvent être perdues du jour au lendemain, que ce soit les richesses, que ce soit effectivement le travail, que ce soit d'autres passions qu'on peut avoir. Du jour au lendemain, ces choses peuvent être perdues. On n'en a pas la maîtrise. Et il a engendré un fils et il n'a rien en sa main. Et là aussi, c'est un peu une question, qu'est-ce que nous transmettons? Celui qui a recueilli beaucoup d'argent pense peut-être qu'il va transmettre cet argent à ceux qui le suivent, mais est-ce que c'est ça que nous devons transmettre? Et est-ce que véritablement il peut le transmettre? Là, il a travaillé beaucoup, Ecclésiaste 5, verset 13, il a travaillé beaucoup, puis il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il transmettra à ses enfants? Alors que si nous avons à cœur de transmettre ces richesses merveilleuses de Dieu, la connaissance du Seigneur, les trésors de la foi, eh bien, nous aurons toujours quelque chose à transmettre, quelque chose qui ne périt pas, et quelque chose qui sera une bénédiction à transmettre à ceux qui nous suivent, si le Seigneur laisse encore des générations se succéder. C'est aussi important, nous ne vivons pas pour nous, l'un des dangers de cet amour des richesses, c'est de vivre pour soi. Et en vivant pour soi, nous ne sommes pas là sur la terre, le Seigneur ne nous a pas laissés pour vivre pour nous. Il y a une autre chose que j'aurais aimé souligner, c'est l'attitude de l'apôtre Paul dans Philippiens 4. C'est aussi important pour nous. Philippiens 4, verset 11. Donc l'apôtre remercie pour un don. Et puis il dit, Philippiens 4, verset 11, « Non que je parle ayant égard à des privations, car moi j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance en toutes choses, et à tous égards je suis enseigné, aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » Il y a l'apôtre lui-même, c'était un homme ayant les mêmes sentiments, les mêmes désirs que nous. Il pouvait bien savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Et il avait appris. Il avait appris avec le Seigneur. Il avait appris à travers les expériences de sa vie avec le Seigneur. Et il avait appris aussi bien à être rassasié, c'est-à-dire à être dans l'abondance, comme il le dit, qu'à avoir faim et à être dans les privations. Il savait vivre ces circonstances avec le Seigneur. Mais ce ne sont pas des choses, si j'ose dire, qu'ils nous viennent toutes seules. Il faut les apprendre. Et autant cet amour de l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. C'est un sentiment naturel, un sentiment de l'homme naturel qui n'est pas contrôlé et qui est de moins en moins contrôlé au fur et à mesure qu'on en a beaucoup. Autant ce que Paul avait appris, c'est la sagesse de ce qu'il avait appris avec le Seigneur,
des leçons qu'il a apprises avec le Seigneur, de cette maîtrise de soi qui fait partie du fruit de l'esprit, cette tempérance, cette maîtrise de soi, cette sobriété, toutes ces choses, il les avait apprises. Mais pour les apprendre, effectivement, il faut déjà que notre cœur soit bien tourné vers le Seigneur. Mais ce sont des choses que nous avons à apprendre par l'expérience de notre vie chrétienne.
Ajouter aussi la qualification des surveillants ou des anciens. Dans 1 Timothée 3, il nous est dit: cette parole est certaine, que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité, n'aimant pas l'argent. Et un peu plus loin, les serviteurs. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et de même dans l'épître à Tite, en ce qui concerne les anciens, que Tite devait établir dans chaque ville, eh bien, il nous est dit, verset 7 du premier chapitre, « Il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. »
Une question. Est-ce que dans ce passage que nous avons lu, puis même depuis le début du chapitre, est-ce que on n'a pas au fond des mises en garde contre un esprit d'indépendance? On a vu ceux qui veulent devenir riches, on a parlé de ce danger finalement de désirer avoir de l'argent pour vivre comme bon me semble et ne plus avoir à tenir compte de Dieu. N'est-ce pas au fond la caractéristique de l'impiété? Mais on avait lu au début de ce chapitre peut-être ce danger de l'indépendance d'un esclave vis-à-vis de son maître qui aurait voulu s'extirper de cette condition de dépendance. Ils étaient appelés à ne pas mépriser leur maître, mais à les servir. Puis au verset 3, est-ce qu'on n'a pas aussi cette mise en garde contre cet esprit d'indépendance quant à l'enseignement de l'Écriture et quant à l'enseignement des sept saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Et en contraste, quand on pense à l'homme dépendant qui a pu dire « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté », on pourrait peut-être relire ce passage que, il me semble, auquel Michel a fait allusion en 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis.
Bénédiction de l'Éternel, ce qui nous enrichit. Proverbe 10, 22.
On peut faire aussi le lien pour répondre à Micah avec le verset 11. Ce qui est quand même frappant, c'est que le sujet du désir de s'enrichir, de devenir riche, est assez longuement développé dans notre chapitre. Et alors, au verset 11, nous voyons « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses ». Au fond, l'apôtre Paul, il développe ce sujet qu'il y a pour l'homme de Dieu des choses à fuir. Et donc, nous voyons à partir du verset 11 ce contraste qui est frappant entre ceux qui veulent devenir riches et donc aller de l'avant dans l'impiété, puisque devenir riche, c'est bien sûr devenir de ce désir insensé de devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis de Dieu et ne plus s'attendre à Dieu dans les besoins journaliers. Et donc, dans le verset 11, nous avons « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses ». C'est aussi, hein, c'est sans doute un passage qui est intermédiaire avec ce que tu as exprimé tout à l'heure dans le premier verset. Et puis ce verset 11, où nous voyons ce qui est présenté quant à l'homme de Dieu. Mais toi, maintenant, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Il y a des choses à fuir, et tout particulièrement le sujet de devenir riche. On pourrait peut-être dire quelque chose maintenant sur ce qu'est un homme de Dieu dans la parole de Dieu. Et nous voyons que l'apôtre Paul avait sans doute une haute appréciation de Timothée, parce que quel qualificatif pour Timothée qui était jeune dans la foi. Et nous savons que ce terme aussi apparaît dans l'Écriture, quand la multitude professante, ici c'est le christianisme, manque à sa responsabilité collective. Et donc on voit que c'est dans un temps de confusion, ou un temps de ruine, un temps de décadence, où la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, souligne ce caractère particulier chez certains croyants qui sont des hommes de Dieu. Et donc, pour Dieu, dont les yeux suivent chaque chose sur la terre, eh bien, nous voyons que les yeux de Dieu, eh bien, ils sont sur ceux qui sont fidèles, sur l'homme pieux. Sans doute, peut-être qu'il faudrait mettre en parallèle aussi ce qu'il est dit dans les psaumes, ce que sont les hommes fidèles, ce qu'est un homme pieux. Et ici, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, eh bien, il est caractérisé individuellement par sa fidélité. Sans doute, on pourrait dire d'autres choses et peut-être s'étendre un peu sur...
Dans l'Ancien Testament, enfin dans la parole de Dieu, il y a huit hommes de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y en a sept. Et dans le Nouveau Testament, ici, dans ce passage, dans 2 Timothée 3, 17, Timothée est appelé homme de Dieu. Toi, homme de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est bien sûr, c'est Moïse, c'est David, c'est les prophètes. Et nous, ici, dans la seule fois du Nouveau Testament, Timothée est appelé homme de Dieu. Paul était un homme de Dieu, mais il n'est pas cité dans la parole qu'il était homme de Dieu, mais il est homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est ce qui suit le Seigneur Jésus et qui honore le Seigneur Jésus. Ils ont cette foi que les hommes de Dieu avaient en l'Éternel. Et ici, Timothée entend le Seigneur Jésus, l'homme de Dieu.
On a dit aussi que un homme de Dieu, c'est un croyant qui a la force morale et le courage de s'identifier aux intérêts de son Seigneur et aux intérêts de Dieu dans des temps difficiles. Et c'est aussi un croyant qui peut mener le combat de la foi, comme nous pouvons le voir un peu plus loin, au milieu des périls et et des obstacles de toutes sortes. C'est-à-dire, un homme de Dieu, c'est un homme qui représente son Dieu. Il est présent de la part de Dieu et pour Dieu. Et donc, il est à la fois un témoin et aussi un ambassadeur, c'est-à-dire il le représente. Et dans ces caractères de Timothée, nous voyons qu'il doit fuir au fond ce qui est opposé au caractère de son Dieu et poursuivre ce qui le glorifie et qui le glorifie pour le représenter. Et donc un homme de Dieu, il est présent, sans doute dans des temps particuliers, difficiles, comme nous l'avons vu le 1er mai, dans ces temps fâcheux, eh bien, Timothée était appelé à être un homme de Dieu et à poursuivre tout ce qui pouvait glorifier son Dieu dans ces temps périlleux.
On peut noter aussi que ce verset commence par « mais toi ». Il y en a au singulier. Avant, il était parlé de « ceux qui ». Et devant un état de choses, devant un danger commun, on peut dire, il y a des décisions, des choix, des engagements individuels. Mais toi, homme de Dieu, toi, règle ta vie, règle ta marche sur celui que tu appelles ton Dieu. Celui que tu veux servir. Et cet engagement individuel, personne ne peut le faire à la place de Timothée, et Timothée ne peut pas le faire à la place d'un autre. C'est vraiment un engagement individuel de regarder au Seigneur, de compter sur lui, de s'appuyer sur lui, de lui donner cette première place. Alors que dans le côté de ces versets qu'on a vus avant, on a au fond un chemin très commun, qui est un chemin... peut dire ceux qui ambitionnent d'être riches, c'est quelque chose de général, on peut s'entendre, mais c'est quelque chose de commun, de commun entre beaucoup de personnes, l'un imite l'autre. On s'échange des tuyaux pour devenir riche, on se concurrence l'un l'autre, c'est égal. Là, il y a vraiment, mais toi, regarde ta marche, regarde ton cœur, engage-toi dans ce chemin-là. Tu as les comptes que nous avons à rendre, c'est individuel au Seigneur. Et cet engagement de cœur, c'est aussi individuel.
On peut ajouter que fuir ces choses, c'est nécessité pour le croyant. Ici, c'est plutôt la sécurité pour le croyant, c'est dans la fuite. Et la victoire n'est pas toujours dans les luttes ou dans les combats. Et les victoires, souvent, c'est dans la fuite. On peut rappeler les exhortations dans le Nouveau Testament, ceux qui font fuir. Dans Jean 10, il nous est parlé de fuir le berger étranger. L'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 5. Dans 1 Corinthiens 6, nous devons fuir la fornication. En 1 Corinthiens 10, nous est dit de fuir l'idolâtrie. Ici, un Timothée de la jeunesse. Il y a sans doute aussi des dangers dans la vie moderne aujourd'hui. On peut peut-être citer la curiosité et le désir d'être informé de tout ce qui se passe dans le monde. Et ça peut devenir quelque chose... que nous devons fuir, parce que toujours vouloir savoir les dernières nouvelles de la guerre, qu'est-ce qui va arriver, etc., ça peut nous distraire aussi dans la vie de tout. On peut fuir aussi certains livres religieux. Il y a des livres religieux de plus en plus qui sont dangereux, des livres religieux qui parlent beaucoup d'expériences. On ne parle plus d'enseignement, mais beaucoup de personnes maintenant sans doute des croix autres, elles ne nourrissent pas. Mais ce qui peut nous nourrir, c'est la parole de Dieu. Il faut faire attention aussi à fuir, on l'a évoqué le 1er mai, tous ces moyens de diffusion actuellement et l'utilisation intensive de tous ces moyens où on se perd et où on est distrait. Il faut sans doute fuir en mon intelligence, confiance en mes moyens intellectuels, confiance pour mesurer qu'en lui il n'y a aucune force, que nous et se tourner vers le Seigneur, parce que c'est en Dieu qui est le Dieu fort et dans le Seigneur que nous pouvons trouver dans sa grâce toute la force pour vivre pour lui. Soyons prudents. Il y a des choses bien étrangères, c'est-à-dire les fausses doctrines.
Première épître, 1 Jean 5, 21, « Enfants, gardez-vous des idoles. » Donc, il devait aussi fuir. « Gardez-vous des idoles. »
Des choses qu'il faut fuir, il y en a qu'il faut poursuivre, on le voit aussi ici, et il y a aussi des cas dans lesquels il faut résister. Ce qu'il faut fuir, c'est, si on essaye de voir les caractères communs de tout ce qui a été évoqué, c'est ce qui séduit la chair, ce qui plaît à la chair en nous, à l'homme naturel, à l'homme dans la chair. Et nous ne pouvons pas résister dans ce cas-là. La chair, notre seule ressource, c'est de la tenir dans la mort, de considérer que nous n'avons plus à la nourrir ou à la satisfaire, la tenir dans la mort et donc fuir tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, viendrait alimenter ces convoitises. Nous devons fuir ces choses. Nous n'avons pas la force, nous ne pouvons pas résister à cela. En revanche, il nous est dit, résistez au diable. Et pourquoi résister au diable? Nous pourrions penser qu'il faut fuir le diable, mais nous devons résister au diable. Pourquoi? Parce que ce que Satan cherche à faire, c'est à nous priver de nos bénédictions spirituelles, à nous priver de notre part en Christ, ou à en priver nos frères. Et à ce moment-là, nous sommes appelés à combattre. Et l'apôtre nous le dit bien, résistez au diable, et il s'enfuira de vous, nous dit Jacques. Résister au diable, c'est-à-dire notre lutte est contre ces puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Notre lutte, nous avons effectivement à lutter contre ces puissances avec les armes de Dieu, avec l'armure de Dieu, avec les armes de Dieu. Pourquoi ici résister ou lutter? Parce que ce qui est en jeu, c'est la façon dont nous allons pouvoir garder, saisir les bénédictions qui nous sont données par Dieu. La chair, on la laisse dans la mort, mais nos bénédictions spirituelles, nous devons les saisir, nous devons les garder pour nous-mêmes, pour nos frères, pour l'Assemblée, pour nos frères et sœurs aussi. Quand on combat les combats de la foi, c'est aussi pour l'Assemblée, pour nos frères. Donc il y a des choses qu'il faut fuir, et il y a les ennemis auxquels il nous faut résister. La première des armes étant, bien sûr, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis, il y a ce qu'il faut poursuivre, et peut-être qu'on peut se souvenir de cette phrase qui peut-être en une seule phrase, nous aide à comprendre. Il faut fuir ce qui nous poursuit, la chair, ses convoitises, et poursuivre ce qui nous fuit, les bénédictions telles que l'apôtre le voit ici, la foi, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience. Toutes ces choses que, par nature, nous ne saisissons pas. Il nous faut la grâce, le secours de l'esprit. Il nous faut donc poursuivre ces choses avec le secours du Seigneur pour pouvoir les saisir, c'est-à-dire les faire des réalités dans notre vie.
Yeah. Take care.